Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal M, c'est notre émission Regard sur le monde. Diane Felice, Michel Poulain en votre compagnie pour la prochaine heure. Nous avons des invités de marque, Diane, aujourd'hui.
Oui, comme toujours, n'est-ce pas Michel?
Alors on a tout d'abord madame Lisette Poirier qui est directrice générale de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. Et on reçoit également monsieur Gérald Provençal, un écrivain qui a toute une histoire. Alors Diane, notre première invitée, nous l'avons au téléphone parce que elle demeure loin. Elle est en Gaspésie, les îles de la Madeleine. C'est la madame directrice générale Lisette Poirier de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie, Îles de la Madeleine. Bonjour madame Poirier.
Bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre émission parce que dans le cadre de Regards sur le monde, on va faire une petite tournée de toutes les associations, les regroupements qui œuvrent au niveau de la déficience visuelle et auprès des personnes qui souffrent de déficience visuelle. Alors, vous êtes parmi nos chanceuses qui va nous parler de votre association. Quelle est la mission de votre association, Mme Poirier?
Mais nous, notre mission, c'est de regrouper les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Puis aussi, on va à domicile pour compléter tous les formulaires pour qu'ils reçoivent tous les services gratuits.
Et d'où vous vient cette idée d'avoir démarré, créé une telle association là où vous êtes, au fond? Là, vous êtes en Gaspésie ou aux Îles-de-la-Madeleine, exactement?
En Gaspésie.
OK.
Nous, ça a commencé en 95 parce que j'ai un handicap visuel. Puis ça m'a été proposé d'ouvrir un point de service. Donc, ça a commencé comme ça. Puis en 96, on s'est séparé avec Rimouski pour diviser les régions. Parce que le territoire est tellement grand.
Oui.
Oui, c'est comme ça a commencé. Puis vu que j'avais un handicap visuel, bien, je savais de quoi je parlais aussi, au même, puis tout. Là.
Ça peut représenter aider combien de personnes par semaine ou par année?
Bien, présentement, on a 346 membres qui ont un problème visuel. Mais je ne suis pas toute seule pour travailler pour tout ce monde-là.
Je vous le souhaite.
J'ai quatre employés au bureau régional. Puis j'ai un bureau d'ouvert aux Îles-de-Madeleine.
Et vous vous financez comment, Mme Poirier?
Bien, nous, c'est le CISSS, l'Agence de la santé et des services sociaux. Puis on a Centraide, on a beaucoup de dons aussi, des communautés, des chevaliers, des fondations. On fait beaucoup de demandes, là.
C'est beaucoup de gens, 350 personnes, c'est énorme.
C'est énorme. Sur tout le territoire, là, c'est très grand.
C'est aussi plusieurs déplacements. Alors, concrètement, les services que vous offrez pour donner quelques exemples à nos auditeurs?
Bien, nous, c'est ça, on fait beaucoup d'écoute téléphonique. On va à domicile. On organise beaucoup d'activités. On arrive de la Côte-Nord, un gros rassemblement, destination loisirs. Il y a la fête de Noël qui s'en vient. On essaie de sortir, de briser l'isolement, Puis on a aussi des petits programmes d'accompagnement qu'on peut aider la personne à se trouver un bénévole pour sortir de chez eux.
Est-ce que vous avez de la difficulté à mobiliser les gens autour de vous?
Non, pas tellement, parce qu'on est pas mal connus.
La moyenne d'âge des gens que vous aidez, c'est quoi?
Ben c'est de tous les âges, mais la plupart, c'est de 50 en montant.
Et la majorité des pathologies que vous rencontrez?
C'est la dégénérescence maculaire, la rétinite pigmentaire, puis il y a autres maladies aussi. Là. Mais la grosse majorité, c'est la dégénérescence maculaire.
Est-ce que vous constatez une augmentation de la clientèle?
Oui. Ça remonte. Oui. Comme cette semaine, j'ai trois nouveaux membres encore à aller voir. Puis, c'est ça, on se déplace beaucoup, là.
Pour le déplacement, est-ce que ce sont des bénévoles qui vous reconduisent ou...
Non, nous, on a une petite van. Puis j'ai un travailleur avec nous qui voit très bien. C'est lui qui nous conduit, là.
Pour les îles de la Madeleine, comment ça fonctionne?
Mais on fonctionne beaucoup par Internet. Puis on est allé en 2013. On s'est rencontrés en fin de semaine avec grâce au rassemblement qu'on a eu avec Homo.
Comment vous vous faites connaître auprès de votre clientèle? Comment ils entendent parler de vous?
Bien, nous, on a des dépliants partout sur le territoire, des affiches. ça passe à la télé communautaire, à TV, plein de publicités, là.
Donc, il n'y a pas de raison pour les gens de ne pas profiter de vos services?
Non, puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de choses gratuites.
Comme quoi, par exemple?
Mais comme nous, on commande en mettant des montres parlantes. On les remet gratuitement. Des réveils matins, il y a plein de petites choses comme ça.
S'il y a des gens qui souhaiteraient vous rejoindre, des gens qui nous écoutent dans la région de Gaspésie, des îles de la Madeleine, on fait comment?
Ils peuvent me contacter par téléphone. C'est le 418-388-2836.
Et est-ce qu'il y a un courriel?
Oui, c'est info@aphvgim.com.
Moi, j'aurais une question qui me brûle pour les minutes qui nous restent, Mme Poirier. Vous faites cela depuis plusieurs années. Vous êtes vous-même atteinte d'une déficience visuelle. Croyez-vous que vous faites une grande différence auprès de votre clientèle?
Une très grande différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortaient pas de chez eux. Puis avec nos activités, puis toute notre promotion qu'on fait, là, on va les chercher beaucoup.
Pourquoi les gens hésitent à vous appeler? Qu'est-ce que vous entendez généralement?
Bien, souvent, ils n'acceptent pas ou qu'ils ne veulent pas le dire. Comme moi, ça m'est arrivé. Quand que mon handicap, ça a commencé, je ne voulais pas en parler.
Mm-hmm. Mais d'abord, j'imagine que c'est une grande nouvelle à absorber.
Oui, c'est ça. Ça fait qu'il faut apprendre à vivre avec. Il y a d'autres moyens pour nous aider à fonctionner, puis... Je me dis toujours, quand on a des bons bénévoles, on peut faire n'importe quoi.
Et justement, vous avez une équipe de combien de bénévoles? Vous avez 4 personnes à la permanence?
On est 5 permanences. Puis des bénévoles, j'en ai une trentaine.
C'est assez extraordinaire. Comment vous faites pour maintenir l'intérêt et maintenir le momentum avec tout ce monde-là, et surtout avec les distances que vous couvrez?
Ah, ben, ça nous tient. Moi, ça me tient à cœur beaucoup. Fait que je compte presque pas mon temps, là. Je fais beaucoup, beaucoup d'heures. Ben, pas juste moi aussi, il y en a d'autres. Mais ça va très bien.
Écoutez, je suis tenté de vous dédier, Mme Poirier, la prochaine chanson qui s'en vient. C'est Dorothée Berryman qui nous interprète « C'est si bon ». Alors, on vous la dédie et on vous invite à poursuivre votre cheminement.
Ben, merci beaucoup et merci de l'invitation.
Au plaisir.
OK, bonjour.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux cet espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement, c'est bon. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'il a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire, c'est si bon. quand je suis dans ses bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est tellement, tellement bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon.
Regard sur le monde sur Canal M. Nous sommes à la partie maintenant de petites nouvelles, enfin des informations sur l'actualité sur la déficience visuelle. Eh bien, Tactile Studio, une entreprise pionnière du secteur de l'exploitation tactile et des dispositifs sensoriels en Europe, développe aujourd'hui ses activités au Québec en collaboration avec Kéroul. Cette entreprise avant-gardiste dans le domaine de l'accessibilité culturelle conçoit et fabrique des dispositifs sensoriels à toucher, sentir et écouter. C'est assez particulier. Ces solutions sur mesure prennent des formes variées telles que maquettes de bâtiments, plans d'orientation, interprétation d'œuvres, etc. D'ailleurs, le Louvre a notamment fait confiance à Tactile Studio pour concevoir et réaliser 4 parcours sensoriels, rendant ainsi accessibles les contenus de différentes parties de ses collections. Et Diane, même, je peux vous annoncer, bon, c'est pas une primeur nécessairement, mais on y travaille actuellement. Il y a un projet présentement avec le Zoo de Granby et l'Institut Nazareth et Louis Braille. D'ici un an ou deux, on va entendre parler de certaines choses qui ressemblent un peu à ce que Tactile Studio fait. Et parlant justement de l'Institut Nazareth et Louis Braille, du CISSS de la Montérégie Centre et Deaf Blind Ontario Services ont effectué le lancement de la version bilingue de la plateforme de la communauté de pratique en surdicécité. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la surdicécité, ce sont les personnes sourdes et aveugles. La communauté de pratique en surdicécité est née en 2016 d'un projet innovant de l'INLB pour soutenir d'abord le développement professionnel des intervenants du programme conjoint surdicécité. Ça, c'est l'INLB et l'Institut Raymond Devoir, que les gens connaissent bien, puis celui de la communauté grandissante des membres. Cette communauté de pratique rassemble actuellement une centaine de membres, acteurs en surdicécité, qui partagent et co-construisent des connaissances, des pratiques et interagissent pour maintenir et développer une expertise en réadaptation. En devenant bilingue, la plateforme permettra à un plus grand nombre d'intervenants, de chercheurs et d'enseignants de partager cette expertise. Et n'oubliez pas aussi d'aller voter, on en a déjà parlé, Diane, dans une autre émission. N'oubliez pas d'aller voter le 1er octobre prochain. Pour les personnes avec une déficience visuelle, les pôles de votation possèdent des trousses vous permettant d'avoir l'aide nécessaire pour effectuer votre devoir de citoyen. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Prochaine pièce musicale. On va prendre une petite pause musicale et nous sommes en compagnie de... C'est un vieux souvenir. C'est à mon âge. Johnny Mathis.
Certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly you know why my heart sings. You love a while, and when love goes, you try to hide the tears inside with a cheer. But in the
comes that certain smile to heart your heart again.
Alors, c'est vrai, Diane, que c'est plus l'âge de mon père.
Ben oui, j'en ai marre. Mais
ça fait du bien d'entendre ces très vieilles chansons. Et notre prochain invité, M. Gérald de Provençal, écrivain, une personne atteinte d'une déficience visuelle. Il est écrivain, il a été imprimeur, il est globe-trotter. Bienvenue à notre émission, M. Provençal.
Merci.
Vous êtes atteint d'une déficience visuelle. Quelle est la pathologie que vous avez?
Dégénérescence maculaire, oui. Et puis ça a commencé il y a environ 5 ans, mais ça diminue à chaque année, là, tu sais, c'est ça. Ouais.
Quand vous avez appris que vous aviez la dégénérescence maculaire, comment vous avez absorbé cette nouvelle?
J'ai composé avec.
Mm-hmm.
C'était pas facile, mais je veux dire que je me débrouillais bien, puis je posais beaucoup de questions. C'est pas joyeux parce que je suis rendu comme la reine d'Élisabeth, moi, là, maintenant. Je dis bonjour à tout le monde, je les vois pas.
Ouais. Bien.
D'où vous vient l'idée d'écrire? Bon, on aura l'occasion d'en parler dans notre émission. Vous avez écrit deux romans, un troisième est en préparation. Vous avez une carrière d'imprimeur, vous avez parcouru la planète. D'où ça vient, l'idée d'écrire, tout à coup?
J'avais besoin d'écrire parce que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, et puis je me semblais que je manquais quelque chose dans ma vie. Et puis, en fait, c'est pour couronner la carrière que j'avais. Et puis, j'avais tout fait. J'ai bouclé la boucle de la fabrication du livre. Et j'ai tout fait, tous les métiers, là, parce que, je vais vous dire, je vais pas faire du coq à l'âne, là, mais dans l'imprimerie, parce que l'imprimerie, ça me touche.
C'est la seule chose. Vous avez le sang bleu, vous. Le sang bleu, le sang des imprimeurs. Vous avez le sang bleu.
Oui, c'est vrai, c'est bon, ça.
C'est bon.
Ouais. Et puis, en fait, il y a toujours, moi, trois catégories en imprimerie. On a la typographie, les presses, et puis la reliure. Et puis moi, la typographie, je m'y connais pas beaucoup, mais j'ai apporté des échantillons de caractères, de vieux caractères qui datent de plus de 100 ans. Et puis, j'étais plutôt, moi, orienté vers les presses. Et puis, au tout début là, de ma carrière, j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler dans la reliure. Travailler dans la reliure à l'Institution des sourds-muets, je fais affaire avec M. Poulet qui vient de me parler de surdité. Ben, c'était des sourds-muets là-bas, là. Et puis, les Saint-Viateurs, c'était les clercs Saint-Viateurs qui ont parti ça, là. C'était pas le gouvernement. Et puis, les sourds-muets qu'on avait au Québec, ils ont convergé vers l'Institution des sourds-muets. Sur la rue Saint-Laurent, près de Fayon, près de le Parc Jarry, là. Et puis, quelque chose de bizarre, hein, c'est que ces gens-là, dans une salle, ils pouvaient avoir un dimanche, 250 personnes dans une salle, on pouvait entendre une mouche voler, là, parce qu'ils communiquaient avec en signe. Et puis, quand on joue au hockey contre eux autres, il y avait une façon de dire « Hey, passe-moi la poque! » quatre coups sur la glace. Et puis, c'est quelque chose de fantastique de voir ces gens-là, tu sais, se débrouiller. Et puis, tu sais, les communautés religieuses, ils sont bafoués, mais je m'excuse, hein, j'ouvre une parenthèse, là. Ces gens, ils ont fait tellement pour le Québec, les communautés religieuses. Et puis, des fois, il y a eu des écarts, mais une personne sur 1000, quelque chose comme ça. Faites-vous-en pas, là. Ils vont fouiller le 50 ans en arrière. C'était peut-être pas dans mon temps, ce que je vous dis là, mais c'est pas moi qui invente ça. C'est John Grisham, le fameux romancier, qui était avocat lui-même, là. C'est lui qui disait ça, qu'il y avait une division dans le grand bureau d'avocats que eux, là, se penchaient sur ce problème-là, qui date de 50 ans, 60 ans.
Mais je veux revenir sur la reliure. Qu'est-ce que vous faisiez à l'Institut des aveugles au niveau de la reliure?
C'est parce qu'il y a les sommeils, il y avait certaines activités que ça prenait un peu plus de sécurité. Tu sais? Parce qu'il y avait une accumulation de papier n'importe quoi dans une plieuse, et puis eux ne l'entendaient pas, là. Fait que toi qui es voyant, ben, tu pouvais alerter le patron, tu sais, là, qu'il y avait un problème.
Et vous les accompagnez là-dedans?
Oui.
C'est ce que vous faisiez?
Oui, oui.
OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous avez fait le tour de tous les métiers pour en arriver à faire un livre.
Oui, 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 oui.
Et
oui,
puis,
oui.
Puis après ça, un deuxième.
Un deuxième.
Mais ça répondait à un besoin.
Oui.
Est-ce que vous avez commencé à écrire avant votre dégénérescence maculaire ou après?
Bonne question. Oui. J'ai commencé avant.
Avant.
Et avant, oui, 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 parce que ça s'est déclaré, disons, 8 ans après. Oui.
Est-ce que vous avez eu peur que ça ait une influence sur votre capacité d'écrire ou est-ce que ça vous a déjà causé des soucis?
Là, présentement, oui, là, j'ai un problème. Et puis, j'ai besoin d'aide parce que je ne peux plus travailler sur mon ordinateur. J'ai de la difficulté, là, à voir les lignes. C'est rendu là, là. Et puis, mais je pense bien que l'Institut national Louis Braille, ils m'ont tellement aidé au début, là. Ils vont peut-être continuer à le faire.
Comment ils vous ont aidé au début?
Oh, bien, beaucoup de choses. Il y a au moins trois spécialistes qui sont venus me voir. Et puis, ce côté sécurité, le poil, c'est bien dangereux, ces choses-là. Et puis, ils ont arrangé mes clés. Le téléphone... Encore là, avec des étiquettes pour mettre sur des gros numéros, ces choses-là. Et puis, mon lecteur, ces choses-là. En tout cas, ils m'ont bien aidé. Et pour finir dans tout ça, c'est que je reçois de la Bibliothèque nationale, parce que je les connais bien, puis eux me connaissent aussi, je reçois des CD, des belles histoires qui sont enregistrées ici à Vue et Voix. Mais des belles histoires, puis les narrateurs, là, ils font tellement un beau travail. Je dis ça à mon fils qui est ici, Daniel, là, et que je viens de finir une histoire, c'est tellement beau, parce que les deux narratrices, là, ils donnaient tellement d'émotions dans le texte, là, tu sais, là, tu peux pas laisser l'histoire tranquille, là. Dans la nuit, je l'écoute.
Fait que... Oui.
Parlons justement de livres.
Allez.
Votre premier roman.
Oui.
Qu'est-ce que c'était le premier roman? Qu'est-ce que ça raconte?
Le premier roman, c'était, ça se passe à Cuba. Les deux personnages principaux que j'ai connus. Parce que c'est basé sur des faits réels, mon histoire, là. Et puis, j'étais tout jeune, j'avais 6 ans. Et puis, les deux personnages principaux, c'est Emilio. Emilio, c'est un missionnaire. Et puis, le deuxième, c'est Marcello. Et puis, Emilio, il vient d'une grande famille de plus que 10 enfants, comme à l'époque, c'était des grandes familles au Québec. Et puis, très religieuse. La famille était très religieuse. Et puis, lui, il est au séminaire, qui apprend le latin et le grec. Et puis, il va suivre une période de formation pour aller en mission. Et puis, il l'envoie à Cologne, dans une famille, dans une paroisse la plus pauvre, je pense, de Cuba, dans la province de Matanzas. Et puis, lui vient du nord de Montréal. L'autre personnage, Marcello, et puis lui vient d'une grosse famille, et puis moins religieuse. Sa mère est veuve, elle va avoir 35, 37 ans, et puis lui vit de crime. Sa mère, elle se ferme les yeux parce que lui rapporte des recettes de ses crimes, là. Et puis, c'était un leader naturel. Et puis, rendu à 19 ans, il parle 3 langues. Il parle le français, l'anglais, puis l'italien. Et puis, il est rendu dans la mafia. Et puis, il y a 2 compolitiers qui le courent après. Et puis, il y avait tout le temps quelqu'un pour le cacher. Et il y avait beaucoup d'aide. Et puis, à fin de compte, c'est qu'il avait la mafia américaine, voyant son talent, et puis qui se débrouillait très bien en trois langues, parce qu'il était aussi, il faisait partie de la French Connection. C'est la grosse usine qui naît de Marseille, et puis c'était une usine de narcotiques. Là, il est rendu à Cuba, lui aussi, mais les deux personnages, Emilio et Marcelo, ne se connaissent pas. Ils viennent de la même paroisse, mais ne se connaissent pas. Mais le destin veut qu'ils se rencontrent à Cuba. Mais mon personnage Marcelo, lui, vend des armes à Fidel Castro. C'est vrai. Et puis après ça, Fidel Castro arrive en poste parce qu'il a délogé Batista. Il y a beaucoup d'activités, là. Oui, il y en a qui vont dire qu'il y a de la violence. Il y a de la violence, il y a de l'amour, il y a de l'intrigue.
Mais il ne faut pas nous dévoiler des punchs.
Non, du tout.
On peut entendre votre livre. Hein?
Oui, justement, on va en parler tantôt, Diane, parce que je veux finir là-dessus. Ouais. C'est que ce sont des gens que vous avez connus et que vous avez créé une histoire, vous avez créé un roman autour de ça, imaginé des choses. Vous avez beaucoup d'imagination.
C'est-à-dire que c'est bâti sur des faits réels, par exemple.
D'ailleurs, vous êtes allé à Cuba.
Oui, trois fois.
Trois fois, quatre fois. Inspirer votre roman.
Inspirer, puis visiter ces lieux-là. Et puis, je vais vous dire les commentaires que j'ai eus.
On va faire ça après la pause, parce qu'on est déjà rendu à la moitié de notre émission. Ça passe très vite avec M. Provençal.
Oui,
et on va
intriguant.
En savoir un petit peu plus sur son deuxième roman aussi, qui sera également un livre audio. On va en parler tantôt, Diane. Une petite pause et on est de retour à Regard sur le monde sur Canal M.
Son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e l'ho trovato. L'invasor. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e l'ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di se io muoio, la partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, la partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellirai la semontagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellirai la semontagna, sotto l'ombra di un bel fior. Quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior.
visto il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao!
Alors Diane, notre invité, M. Provençal, nous a inspiré avec son roman où il y a un Italien dans son roman,
bien
qui est
sûr.
Le premier qu'il a fait, qui s'appelle...
D'ailleurs, le titre, c'est « Le caïd et le saint ».
Et ce roman-là est disponible sur Amazon.fr. Il est également disponible en livre audio.
Alors,
les gens peuvent se le procurer. C'est toute une aventure que vous nous avez titillé dans notre premier entretien sur ce livre. Vraiment, vous avez beaucoup d'imagination. On va parler du deuxième qui vient tout juste de sortir, qui sera également en livre audio, qui a été transformé en livre audio par Vues et Voix. Ça s'appelle « Circonstanciel ». Quelle est cette histoire?
Voici, les deux personnages principaux, ce sont des universitaires et puis, qui viennent de la ville de Québec. Et puis, pour parfaire leurs études, ils vont en Europe et parcourent des pays comme la France, l'Espagne, mais ils s'aperçoivent, par exemple, qu'il y a deux minorités linguistiques, les Catalans puis les Basques, qui, eux, ont à peu près la même visée que le Québec. Mais dans mes deux personnages, il y en a un qui est fédéraliste, puis l'autre, il est séparatiste. Mais ça donne, par exemple, que celui qui est séparatiste, lui, est d'origine écossaise. Ça vous-tu dit quelque chose, ça? L'indépendance de l'Écosse, je ne sais pas. Mais de toute façon, ils veulent aller voir aussi la course de taureaux et puis dans le Pays basque. Il se produit quelque chose là-bas, et puis il y a tout le temps une rivalité, disons, entre les Espagnols. Tu sais, c'est des minorités qu'on dirait que sont tout le temps en ébullition. Les Basques et les Catalans. Moi, comme j'ai mon premier roman, j'ai penché pour les Cubains, hein, contre l'hégémonie américaine. Mais là, je penche pour les Catalans. Et puis, je connais l'histoire. Ces gens-là, les Catalans, ils ont été bafoués. Et puis, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est tout écrit dans mon roman. Et puis, mais ce qui arrive, c'est que les deux personnages, ils se sentent visés quand il y a eu un accident là-bas. Et quelqu'un, il a poussé un spectateur devant les taureaux, en tout cas. Là, puis là, ils se sentent visés. Ils vont dire que ils vont s'identifier comme étant des séparatistes. Il se pousse dans les Pyrénées. Et puis là, c'est là qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent dans les Pyrénées, ces deux gars. Mais un des deux, quand il arrive à Bayonne, qui est la capitale de Pays Basque, et puis sur le côté français, et puis Éric disait à Gilles, il dit, écoute, Gilles, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, je ne peux plus capable de dormir. Il y a tellement de choses qui se passent ici, là, et puis il quitte. Ça donne que il y a une fille qui arrive là, c'est entrefaite, elle arrive chez M. Deantilly, puis elle, ça va être une future anthropologue. Et puis, à l'insu de tous, là, elle a une licence pour piloter un hélicoptère. Gilles, L'autre qu'on passe, puis ils m'ont dit, ben dis-moi pas, je vais être prêt avec elle, là, tu sais, là, pour continuer le chemin. Ça donne que c'était une bonne compagne. Et puis lui, ben c'était un champion des arts martiaux. Fait qu'imaginez qu'est-ce qui se passe. Lui, tout le temps, il est là pour la protéger. Et ça devient sa Diane. Et puis là, c'est ce qu'on voit peut-être sur la couverture, là, on voit... Ça ici, c'était fait par un illustrateur, des illustrateurs chevronnés, la couverture de circonstanciel. Et puis, en tout cas, je ne vais pas vous compter toute l'énigme. Là, je suis prêt à m'avancer un peu trop. Là.
Vous êtes tout un conteur, M. Provençal. D'où vient l'idée initiale de vos histoires?
Je pense que c'est inné, ça. Je l'avais en moi, mais j'ai voulu, à un certain âge, là, prendre des cours pour m'améliorer mon français, parce que je parlais plus en anglais. Je travaillais plus en anglais. Il peut en donner en espagnol, mais en français, là, je l'avais.
D'ailleurs, est-ce que vous êtes allé en Espagne pour vous inspirer pour votre roman?
Oui.
Ah oui.
En Catalogne aussi. Pays basque aussi.
Il y a justement sur la couverture, et je pense que ça fait partie de l'introduction du livre, sur le sac à dos d'un des personnages, il y a un drapeau du Québec.
Exactement.
Et c'est ce qui cause des ennuis.
C'est ça. C'est ce qui cause le problème, qui sont mal jugés. Parce que tout de suite, là, quand il est arrivé, les policiers fédéraux à Pamplona, et puis, quand ils ont vu ça, on dit c'est des séparatistes, mais ils n'ont pas vu la différence entre être un nationaliste et puis qui aime son Québec, tu sais. Puis ils font pas de trouble là-bas, là. Mais ils ont été mal jugés, c'est pour ça qu'ils s'échappent dans les Pyrénées. On voit dans l'histoire là, toutes les choses qui arrivent dans les Pyrénées.
Et ça donne le goût d'aller l'acheter.
Oui, vous avez dû faire énormément de recherches. Ça prend combien de temps pour faire un livre semblable? C'est 2-3 ans?
4 ans? 5 ans? Comme je disais, Mme Diane, ce qui arrive, c'est il y a des gens qui ont beaucoup de budget. On a une Québécoise ici, elle a un gros budget. Et il y a une équipe qui travaille pour elle. Moi, l'équipe, c'est moi. Fait qu'elle a des budgets pour se déplacer d'une place à l'autre. Moi, ça vient de ma poche.
Comment vous faites pour rester persévérant jusqu'à la fin? Parce que c'est quand même des romans qui ont quelques pages, là, 300-400. Comment vous assurez de toujours avoir cette discipline, de continuer?
En fin de compte, j'ai l'aide. La façon que je procède, là, c'est peut-être pas dans les livres, mais j'ai un plywood à peu près comme 2 pieds par 4 pieds, puis j'ai mes personnages. Mes personnages, j'ai un profil de chaque personnage parce que...
Ils ont une personnalité.
Non seulement ça, c'est que Gilles est rendu là, au chapitre 8, et puis il a les cheveux noirs, mais là, il y a la CIA qui court après lui à part de ça. Fait que là, il se teint les cheveux, puis elle aussi se teint les cheveux. Fait que faut pas qu'il y ait d'erreur, là. Fait qu'on est là.
Vous devriez voir nous expliquer, les auditeurs, c'est magique.
Ben, c'est ça, là. Faut suivre les personnages, parce que dans un certain temps, il y a 6 personnages. Oups, on arrive un peu loin, ils sont seulement 4, là. Puis en dernier tout, ils sont seulement 2.
Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire avant de commencer?
Non. Bonne idée, mais c'est moi qui
vous laissez inspirer,
là.
Oui. Selon vos voyages aussi.
Selon les voyages, oui. Puis l'intérêt, la politique, il y a beaucoup de choses, là. Et puis, comme là, j'étais trop proche des Catalans.
Donc, ça déteint un petit peu.
Oui, ça déteint un peu, même sur le côté personnel.
Oui.
Côté personnel.
Est-ce qu'il y a des...
Il y en a qui me parlent plus.
Est-ce qu'il y a des moments dans ces 3-4 ans vous avez, comme on dit en bon français, vous avez plus de jus? Est-ce que ça arrive?
Oui, la page blanche, le syndrome de la page blanche. Oui, ça arrive. Oui. Et puis, mais ça revient en te relisant, puis là, tu développes. Et comme là, il est arrivé une place que j'avais le syndrome de la page blanche, qu'on appelle, et puis il y avait mon docteur Mueller. J'étais figé, je savais pas quoi faire avec lui. Puis j'étais dans le tour avec un ami que j'avais de longue date, et puis lui conduit, on s'en allait, je sais pas, à New Brunswick. Fait que je lis ça, et puis je dis, qu'est-ce que je fais avec docteur Mueller? Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Ben, dis donc, joue un autre rôle, là. Il avait bien raison. J'ai fait jouer un autre rôle, tu sais, c'est ça.
Pour passer à notre dernier 10 minutes avec vous, M. Provençal, vous êtes à l'écriture d'un troisième roman et un des éléments qui inspire ce roman, c'est la chanson qu'on va entendre de Mireille Mathieu et je vous laisse deviner le titre.
Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour où on ne peut dire à demain à son amour. Et qu'on est là, tout près de lui, à regarder mourir sa vie. Une histoire d'amour où pour nous deux, le mot toujours semblait trop court. Tu vois pourtant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur moi.
À Regard sur le monde, nous recevons M. Gérald Provençal, écrivain, globe-trotter, imprimeur. Il a fait beaucoup de choses et la pièce qu'on vient d'entendre de Mireille Mathieu, M. Provençal, ça a un lien direct avec votre troisième roman qui est en préparation.
Effectivement. Et puis, pour varier un peu, là, je voulais avoir moins de violence. Dans un monde violent qui est rempli de haine et tout ça, le troisième roman, c'est un roman d'amour. Et puis, vous m'avez demandé si je suis en Antarctique. Oui, je suis allé en Antarctique. Mais c'est pas de ma faute. C'est mon personnage qui s'est rendu là-bas.
En fait,
c'est
à 83 ans, parce que vous avez 83 ans aujourd'hui.
Oui.
Vous annoncez que vous partez en mission, en voyage en Antarctique pour suivre votre personnage.
Ben oui, oui.
Racontez donc cette histoire-là.
Mais voici, c'est que en premier, je suis allé voir mon médecin de famille, et puis j'ai demandé une évaluation générale de
votre condition,
de ma santé. Ça fait qu'il m'a dit, quand, après une journée complète, il est devant moi un gars de 60 ans. Voilà mon assu de partir. Puis non seulement ça, vu que mon personnage s'est rendu là-bas, je suis obligé d'y aller, moi, là. Fait que 26 heures de vol. Et puis, c'est une belle expérience. D'abord, les gens là-bas en Patagonie, ils avaient jamais vu ça. Les Canadiens, on ne voit pas. Ils voient des Américains, des Anglais, des Espagnols, tout le monde. Mais les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce gars-là, avec les cheveux blancs. Deux valises, une valise pour le froid et une valise pour le chaud. Et puis, je peux vous assurer quelque chose, c'est que pour ceux qui connaissent pas la Patagonie, ces choses-là, je vous invite à y aller parce que c'est très beau. On a la cordillère des Andes là, qui divise l'Argentine et le Chili, puis ça va jusque le Cap Horn. Et le Cap Horn, il n'y a presque plus de montagne. Là-bas, il y a une grande communauté allemande qui sont arrivés là-bas après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et puis, comme je disais à mon garçon, je suis allé par curiosité. Là, moi, je fais ça, je suis bien curieux. Je suis dans un restaurant, un restaurant allemand. Et puis, les gens veulent savoir, c'est ça la curiosité, les hommes comme les filles, ils veulent savoir où tu viens, tu sais. J'attendais la première question. Tu sais, quand je suis rentré, là, puis je dis, ben, pour moi, tout le monde, ils veulent bien savoir où je viens. Fait que la première question, c'est ça, la jeune fille t'arrive, elle dit, t'es de bien, hein? C'est un Canadien, tu sais, je suis Canadien de la partie française. Ah, ben là, on dirait que c'est, il vient pas du Mossad. Et puis, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de différences. Un matin, je voulais prendre le bateau à 6 heures, mais j'étais pas là. Il était 6 heures moins 10, j'étais pas là. Fait qu'ils sont venus me chercher. Le type est venu avec un espèce de minibus, il est venu me chercher. Encore là, savoir qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce gars-là, tu sais. Et puis, il était 6 heures, il vient me chercher pour prendre le bateau. Et puis, parce que Punta Arenas, là-bas, là, c'était un peu comme... on connaît pas ça, on devrait développer, nous autres, notre nord, là. Et puis, parce que c'était bien, c'était très développé, là-bas. Et puis, il y a des compagnies, là-bas, une compagnie allemande, une compagnie japonaise, à côté de l'autre, on voit pas ça ici, là. Et puis, un hôpital, même, j'ai dit, le vice-recteur de l'université, qui lui-même est un Espagnol, qui vient de là, mais il savait pas qu'il y avait une université là-bas, l'université de la Patagonie.
Mais là, nos auditeurs veulent savoir, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Antarctique? On veut le savoir.
Mais c'est ça, tu sais, c'est une excuse pour dire que mon personnage s'est rendu là-bas. Mais c'est un rêve de jeunesse, tu sais, que j'ai voulu tout le temps aller... en Antarctique, parce que là-bas, il y avait une enseigne, quand je suis arrivé là-bas, c'était marqué « Aquí es el fin del mundo ». Ici, c'est la fin du monde. Moi, j'ai dit « fin... Mais moi, je viens de la fin du monde.
C'est dans le temps qu'ils pensaient que la Terre était plate.
Ouais, non, mais je passe là-bas, j'étais en hémisphère sud, puis moi, je viens de l'hémisphère nord. Fait que, tu sais, c'est... Et puis... ouais, et puis, c'est comme ça. C'est... J'ai eu des belles expériences. Quand je suis arrivé à Santiago... De retour après deux semaines, là. Et puis là, il y avait une Allemande qui m'attendait. Il y a des Allemands là-bas. Fait que, elle m'attendait d'Airbnb. Et puis, je disais, je pensais pas qu'elle était si âgée que ça.
Ben, vous aviez 60 ans.
Oui, 60 ans. Mais fait que, c'est ça, mais elle était très généreuse de son temps, ces choses-là, parce qu'elle disait, venez, on va jaser au salon. C'est rare, ça. Tu sais, on va jaser. Puis là, elle a invité deux autres de ses consoeurs, des Allemandes, pour faire un party, parce que c'est complètement différent là-bas. Là. Je ne peux pas tout vous décrire ça, là. Et puis, mais j'ai commencé à faire qu'il connaît des villes d'Allemagne, mais tout ça, tu sais, fait qu'il commence à être plus intéressant, là, tu sais. Mais après ça, quand en revenant de la Patagonie, j'ai dit, tiens, je vais aller prendre une bière, moi, sur une terrasse. Mais je vais pas sur une terrasse, c'est plein de touristes, là. Moi, je m'en vais avec mon monde, je m'en vais plus loin. Là, ce sont des mécaniciens, des gens qui travaillent dans un garage, puis tout ça, t'sais. Et puis, je m'assois, puis je commande bon, tomar un cristal. La bière, la bonne, c'est le cristal. En disant le cristal, il y a des trois gars, dont un, c'était le représentant de la brasserie cristal. Puis il dit, non, c'est pas une petite bouteille, c'est une grosse bouteille que tu vas avoir. Et puis, il a pris ma tablette, il a pris des photos avec ma tablette. Puis là, quand j'ai pris ma bouteille, puis je l'ai levée, puis j'ai crié fort, j'ai « Vive le Québec! » Mais il y a deux autres qui sont sortis d'un dépanneur parce que là, c'était complètement différent, là. Tu sais, en parlant français, parce que là-bas, ils sont pas habitués à ça, tu sais. Mais c'est des gens fantastiques, tu sais. Et puis...
Mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'Antarctique qui vous a inspiré ou qui vous inspire encore parce que le livre est en construction?
C'est justement, c'est que je me sers de ça, c'est du matériel de roman. J'appelle ça du matériel de roman. Pareil comme quand je vais à Cuba, n'importe où, j'appelle ça du matériel de roman. Sinon, si t'es confiné dans ta maison, attention, t'as pas d'expérience de vie, là.
Donc ça, vous allez chercher votre inspiration.
Je m'en vais à Catalogne, n'importe où, j'ai de l'expérience. Puis on dirait que j'y cours après. Je cours après pour écrire, tu sais, parce que c'est un peu comme des journalistes d'enquête, tu sais, là. Tu cherches la vérité, eux cherchent la vérité, mais c'est un peu ça, tu sais, d'avoir de l'information pour écrire.
Vous avez parlé de votre tablette tout à l'heure. C'est quand vos enfants ont su que vous alliez en Antarctique, ils vous ont acheté un iPad, hein, je crois.
Ben, oui, oui.
Vous l'avez resté en contact avec
vous. Oui, c'est ça, la contact. Ben, j'étais rendu à Atlanta, puis je regardais la coupe, comment ça s'appelle, le Rose Bowl aux États-Unis, là, dans un bistrot à Atlanta. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce que je cherche de l'action? Peut-être.
Je crois que oui. D'ailleurs, parlant d'action, je suis curieuse d'entendre vos projets d'avenir. Quels sont vos projets d'avenir? Parce que là, vous êtes tout jeune à 83 ans, là.
Hey. Il y a un petit peu plus que ça maintenant,
ah,
Diane.
Oui, ah oui?
Oui, ça date de quelques années, son voyage en Antarctique.
Oh là là!
Mais, on garde une petite gêne.
Ouais! Parce que deux ans après, je suis allé faire du planeur.
Non.
Hein?
Du planeur. Ouais. Dans quel pays?
En Ontario.
Ah, OK. Chez nous. Ouais. Alors, vos projets d'avenir?
Ben, c'est difficile parce que un de mes amis est venu il y a environ 3 semaines. Lui, c'est un océanographe. Il a traversé l'Atlantique en voilier. En tout cas, il dit, c'est drôle. Il dit, quelqu'un de ton âge qui a encore des projets. Il dit, c'est sûr que je comptois, ils ont 60 ans, 65 ans, puis ils n'ont plus de projets. Mais toi, t'en as tout le temps. Tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, ce que je demande aux gens, ayez des projets. Tu sais, la vie est belle. Mais faites quelque chose, là, tenez-vous occupé, puis ayez pas peur, osez faire des choses. Osez. Ouais.
En tout cas, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple pour les gens qui ont des problèmes de déficience visuelle. À vous écouter, à vous côtoyer, tout est possible.
Tout est possible. Tout est possible, c'est ça. Puis je viens de donner un coussin à ma fille. Elle est fantastique, hein? Et puis, elle est même coach de football. Là, nous autres, on a toute une famille de football américain.
Ah oui!
J'ai tout enseigné ça. Et puis, j'ai bien donné un coussin. Ça marquait « Pensez grand ». ».« Pensez grand ».« Think big ». Tu sais, parce que des fois, là, nous autres, on est restreint à faire des petites choses. Puis, on a peur. Puis, c'est la peur tout le temps qui nous anime. Tu sais, j'ai peur d'avoir le cancer. J'ai peur d'avoir ça. J'ai peur d'avoir ça. Mettez donc ça de côté, là, puis foncez, tu sais. Les tiens ont tellement de choses à faire.
Votre deuxième livre, il va être disponible quand, en audio?
Je pense que avec nos techniciens d'ici, là, voilà que je vois Julien par la suite, là, mais d'ici 2 semaines, il va être livre audio chez Amazon FR. FR veut dire français.
Et aussi sur la BNQ, la Banque, la Bibliothèque nationale du Québec, les gens peuvent se le procurer.
Oui.
Et on invite les gens à aller vraiment, vraiment. Ce sont deux bouquins formidables. Il y en a un troisième qui est en marche.
J'ai besoin d'aide.
C'est une
d'aide.
Histoire d'amour.
J'ai
monsieur,
besoin d'aide.
Vous avez besoin d'aide pour votre histoire d'amour?
Oui. Pour l'écriture.
Oui.
Pour l'écriture, parce que, en fait, quand je parle de ça aux gens, puis ils sont intéressés parce que. Je veux rivaliser Love Story.
Ah oui. Pensez
rien de
grand.
Moins. Rien de moins.
Pensez
rien de moins.
Grand.
Il nous reste à peine une minute, M. Provençal. Si j'ai une grosse question pour vous. Si vous aviez à résumer votre vie, quelle serait la phrase? C'est une bonne question. Hein?
Soyez actif. On m'a dit que moi, je suis un hyperactif. Je ne croyais pas, mais en fin de compte, je ne savais même pas si c'était un défaut ou une qualité. Quand ils me l'ont dit, ça ne fait pas longtemps, j'ai dit merci. Je ne sais plus, là, c'est un défaut, c'est une qualité. Pour moi, ça m'a bien aidé d'être hyperactif. Fait que quand j'avais mon imprimerie, on ne s'est pas parlé de ça, j'avais mon imprimerie à Ville-Saint-Laurent, puis j'aidais le journal Les Nouvelles de Saint-Laurent, parce que le directeur me demandait de le remplacer des fois. Fait que je faisais deux choses en même temps.
D'ailleurs, vous êtes une personne très généreuse. Vous redonnez au suivant.
Tout le temps.
Monsieur Provençal, on doit s'arrêter là-dessus, malheureusement. Je m'excuse, j'ai le mauvais rôle. Mais on va vous réinviter. C'était absolument extraordinaire. Donc, les deux livres de Monsieur Provençal sont sur Amazon.fr. Le premier, c'est « Le caïd et le sang ». Et le deuxième, c'est...
Circonstanciel.
Il y en a un troisième qui s'en vient. Oui. C'était « Regard sur le monde » avec Diane Filici et Michel Poulin. On vous souhaite une excellente semaine, mesdames, messieurs. On se retrouve avec beaucoup de bonheur sur Canal M. la semaine prochaine.
Merci.